Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marie-Anne durant la case.
Alain Jalado, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reçu en octobre dernier le prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Vous organisez depuis 30 ans le Festival des Trois Continents, cinéma d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Et justement, c'est dans ce cadre, celui d'un festival en fait consacré aux cinématographies d'ailleurs, des pays du Sud, que vous avez contribué à faire découvrir en France et en Europe le cinéma taïwanais. Alors Alain Jalado, vous êtes le directeur de ce festival des Trois Continents. Quel est le premier film taïwanais que vous avez vu et celui que vous avez sélectionné?
Alors, celui que j'ai vu sélectionné, parce que le festival, quand on l'a créé en 79, bon, j'avais vu quelques films taïwanais avant, mais si vous voulez, on ne pouvait pas les sélectionner puisque le festival n'existait pas. Le premier film qui vraiment a été une date marquante, c'est Les Garçons de Feng Kuai de Ho Chao-Chien. Moi, quand j'ai vu ce film, tout de suite, j'ai perçu qu'il y avait un grand réalisateur là, qui était présent et qu'il fallait importer le film, sortir le film de Taïwan et le montrer dans le cadre du festival. Tout de suite, il y a eu le Grand Prix. Bon, ce qui était quand même chose
c'était formidable. En quelle année?
En 84.
84.
Ouais. 84. Et Ho Chao-Chien, qui à l'époque faisait des films, mais bon, qui au box-office à Taïwan, bon, on ne peut pas dire qu'il faisait beaucoup de succès. Ça lui a donné quand même un soutien formidable, parce que à ce moment-là, les autorités, ceux qui gèrent un peu le cinéma à Taïwan, c'est-à-dire qui dépendent du GIO là-bas, il y a un département film, ont vu quand même qu'ils avaient un cinéaste capable d'avoir un grand prix dans un festival international, qui a été répété l'année suivante, parce que le deuxième film, Un été chez grand-père, à nouveau le Grand Prix, ils se sont dit, voilà, il faut quand même, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, qu'il faut défendre, on va l'aider, on va l'accompagner un peu plus, on va lui donner un peu plus d'aide pour produire pour réaliser ses films.
Et donc, ça lui a apporté une reconnaissance intérieure, on va dire, enfin, dans son propre pays, qui a été, en fait, nécessaire à,
ah bah oui,
à la poursuite,
c'est vrai que souvent,
de son œuvre.
Oui, souvent, dans les pays comme ça, bon, on porte attention à ceux qui font un peu des entrées, et puis on ne regarde pas trop ceux qui ne font pas d'entrées, ceux qui n'ont pas de succès. Bon, bah, on les laisse un petit peu sur le bas-côté de la route, vous voyez. Bon, bah, c'est bien ce qu'il fait, mais bon, ils ne se rendent pas compte qu'avec un réalisateur comme ça, ils ont pu, ils ont pu avoir quelqu'un et qui a pu avoir une notoriété internationale extrême. Voilà, c'est certainement... Bon, il n'est pas le seul, parce que là, je vais vous dire aussi, parallèlement à ça, moi j'avais vu en 83, un film de Edouard Yang qui s'appelait Ce jour sur la plage, dont le caméraman était Christopher Doy, et après très connu pour avoir travaillé longtemps avec Wong Kar-wai, si vous voulez. Là aussi, il y avait deux cinéastes, bon, c'est ce qu'on a appelé les bases de la nouvelle vague taïwanaise, deux cinéastes qui s'exprimaient avec un langage nouveau et qui est capable d'intéresser.
Quel était ce langage nouveau, justement? Quelle est la particularité de ce cinéma né dans les années 80, là, qu'on a qualifié de nouvelle vague taïwanaise?
Ben pour moi, c'est...
C'était quoi pour vous, Alain Jalado?
Bon, c'est très clair. C'est des gens qui, tout d'un coup, abordaient des sujets contemporains, filmaient dans la rue, ben, la société taïwanaise de l'époque, bon, observant un petit peu Ho Chao-Chien, c'était un petit peu... Les Garçons de Feng Kuai, c'était un petit peu son enfance à Kaohsiung, dans le sud. Bon, lorsqu'il faisait beaucoup de blagues, pas toujours... un peu les 400 coups, je dirais. Bon, on pourrait comparer ça, si vous voulez, un peu aux 400 coups de François Truffaut, vous voyez. Créé un peu dans le même esprit, il y avait une façon de faire.
Tourner dans la rue,
une caméra très mobile, captant les moindres gestes et les moindres paroles des acteurs souvent qui n'étaient pas toujours très professionnels d'ailleurs, et qui étaient en radicale opposition avec un cinéma beaucoup plus conformiste, beaucoup plus fabriqué, je dirais, un peu de studio que faisaient certains réalisateurs avant ces jeunes, qui ont quand même un peu bouleversé. Bon, on peut comparer avec la nouvelle vague française. Moi, je dirais Godard, Truffaut, Chabrol. Bon, Edouard Yang et Ho Chao-Chien, c'est un petit peu... Ils ont travaillé un peu dans le même esprit, avec le même langage.
Est-ce qu'ils ont fait explicitement référence à Truffaut, par exemple, à ce cinéma-là?
Ah oui, je crois, oui. Mais bon, sauf que Shoshen, peut-être, il était plus sensible, lui, parce qu'il me l'a dit souvent, on en a parlé, bon, à des cinéastes japonais comme Naruse, par exemple, pour lui qui est un des maîtres, bon, il aimait beaucoup aussi Ozu.
Vous pouvez nous parler un peu de Naruse?
Oui, bah, Naruse, ça fait partie des grands cinéastes japonais, je dirais, avec Mizoguchi. On peut mettre aussi Kurosawa, mais Kurosawa, c'était plus du spectacle, mais plus, encore qu'il a fait des films assez intimistes quand même, mais c'était plus un peu plus de la mise en scène, alors que les autres, c'était des cinémas assez intimistes, sur des sujets, très, très humains, avec beaucoup d'humanisme, une grande sensibilité artistique, et des films très, beaucoup d'émotions, et très touchés par ces films-là. Et je sais que Shao Xian a été un peu marqué par ce cinéaste-là. Nuage flottant est souvent un film de référence, il nous l'a souvent demandé de le présenter, parce que c'est un film pour lui qui était certainement, qui a joué beaucoup dans sa carrière de cinéaste.
Vous organisez cette année d'ailleurs, pour le festival, un hommage à Edward Yang, qui est un cinéaste taïwanais qui est mort en juillet 2007.
En 2007.
Alors c'est une rétrospective de tous ces films ?
Absolument, tous les films de fiction, parce que bon, il n'en a pas fait beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec beaucoup de précision, beaucoup d'exigence, des films souvent assez longs d'ailleurs, qui prenait un peu son temps, et on ne faisait pas un film comme ça en 3 minutes. Oui. Beaucoup de travail sur le scénario, beaucoup de travail aussi après dans la direction d'acteur, dans le casting, dans la mise en scène, dans le montage, aussi dans la recherche des sons. Tous les deux, ils ont travaillé avec quelqu'un assez exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup comme ça en Asie, un des meilleurs ingénieurs du son qui s'appelle Tuducci, et qui leur a porté, il s'est passé quelque chose entre cet ingénieur du son et ces cinéastes pour élever la qualité des films, parce que pour moi, un bon film, c'est aussi une excellente bande-son, et vous voyez, le son peut être créateur d'images.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, mais ils ont eu des parcours parallèles. Il ne faut pas oublier que Edward Yang et Wu Shaoxian, ils ont beaucoup collaboré ensemble au début. C'est-à-dire que Taipei Story, une histoire de Taipei, Wu Shaoxian est un peu le producteur et l'acteur. Avant, Edward Yang jouait un petit rôle dans Un été chez grand-père. Bon, si vous voulez, ils étaient très, très, très près.
Ils étaient très liés,
Pardon ?
Ils étaient très liés.
Très liés. Bon, après, ils sont un peu séparés parce qu'ils n'ont pas fait le même type de film. Edward Yang était plutôt quelqu'un un peu introverti, mais bon, conscient de son talent quand même, parce que Yi, pour moi, qui est un film admirable. Yi, un film admirable. Bon, si on regarde un peu le cheminement des deux.
C'est le film qui avait remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 2000.
Absolument, absolument. Et alors, pour revenir à mon rôle, si vous voulez, c'est que lorsqu'on a des cinéastes aussi talentueux, eh bien, et qu'on trouve ça exceptionnel, moi, j'ai pas hésité à être derrière eux pour les soutenir, pour les accompagner, pour qu'ils gagnent en notoriété, parce qu'ils le méritaient totalement. Bon, après, il y a eu également Tsai Ming-yang qui est arrivé un peu plus tard, parce qu'il n'est pas tout à fait de la même génération, mais là aussi, un auteur aussi important, qui continue à travailler, si vous voulez, là, il est en train de faire un film à Paris, aidé un peu par le musée du Louvre, avec Fanny Ardant, Laetitia Casta, Jean-Pierre Léo, et voilà. Et donc, ce sont des cinéastes qui ont obtenu
une dimension
internationale.
Une
dimension, parce que le dernier film de Shao Xian, c'est une production française, c'est avec Juliette Binoche. Si vous voulez, ce sont des gens maintenant qui peuvent se permettre, qui sont demandés, qui sont sollicités, aussi bien, plutôt plus en dehors de Taïwan. Yi a été produit par les Japonais. Je veux pas un peu critiquer la politique cinématographique de Taïwan, mais quand même, ils auraient pu un peu plus accompagner ces cinéastes, ne pas les obligeant à aller chercher de l'argent ailleurs, au Japon, en France, en Europe, vous voyez, ce qui n'est pas toujours facile pour des cinéastes comme ça.
Est-ce que c'est un cinéma populaire à Taïwan, ce cinéma intimiste ?
Populaire, on ne peut pas dire que ce soit populaire, même si, par exemple...
L'écart est peut-être le même qu'ici aussi.
Oui, un peu le même. Qu'est-ce qui est populaire à Taïwan, c'est le cinéma américain d'action, monté en forme de coup de poing, où les gens n'ont même pas à réfléchir, vous voyez ce que je veux dire. Non, pour moi, il est apprécié. Alors, un film comme, par exemple, La Cité des Douleurs, de Shao Xian, a eu quand même un grand succès à Taïwan. pas parce qu'il a eu le Grand Prix à Venise, le fait de la Venise, mais
il
quand même, c'est un
là-bas.
Film,
voilà.
C'est un film qui, quand même, interpellait beaucoup les Taïwanais sur leur passé. Ça se passe pendant l'occupation japonaise.
Oui.
Bon, beaucoup sur leur passé, ça les interpellait. Et quand on est interpellé, bon, on a envie de voir ce type de film qui sont quand même des films, je ne dis pas que c'est nationaliste, c'est pas le mot, mais qui valorisent, disons, la culture et plus que la culture, l'histoire du pays et l'ancrage des Taïwanais par rapport à leur pays. Vous voyez.
Leur culture, peut-être à leur mémoire, à leur
oui,
histoire.
À leur mémoire, à leur passé.
Pas seulement.
À leur passé, surtout, voilà.
C'est pas seulement nationaliste. C'est,
non,
c'est,
non, ça
c'est
renvoie
d'abord
au passé,
sur l'identité
voilà,
de l'histoire commune des Taïwanais.
Absolument.
Est-ce que ce cinéma taïwanais a une influence ou comment est-il perçu par rapport aux autres cinémas d'Asie?
Ben, je dirais il est quand même très bien perçu parce
oui.
que bon si on peut comparer bon, avec le cinéma chinois
oui.
On n'a jamais eu je dirais d'auteur aussi important en Chine bon
oui.
il y en a comme Zha Zhangke qui est quand même un auteur maintenant un peu avec des références mais bon moi qui connais aussi bien très très bien l'histoire du cinéma chinois on peut dire Chine continentale.
Oui.
Bon, il n'y a pas eu, c'est un mouvement, bon, un petit peu avec Chen Kage au début, lorsqu'il faisait Terre jaune, avec Yang Yimou, mais tous ces cinéastes-là, ils ont voulu faire des super productions, grands spectacles, bon, ils ont pu obtenir des moyens pour faire ce type de film, mais bon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt pour moi. Bon, c'est du spectacle, c'est de l'entertainment, vous voyez, c'est
oui.
du, voilà, bon, et que je trouve que... À l'époque de Shaw Brothers à Hong Kong, bon, il y avait beaucoup de films beaucoup plus intéressants que ce qu'ils font en termes de mise en scène. À l'époque, vous voyez, lorsque il y avait les films de sabre ou les films de fantômes, tout ça, Hong Kong était très très fort là-dedans.
Oui, c'est l'équivalent du cinéma commercial à grand spectacle.
Oui, c'est ça.
Populaire, là, pour le coup.
Complètement populaire. Mais,
qui fait partie aussi.
Et ça, c'est Hong Kong,
c'est
les Shaw Brothers surtout, et la Golden Harvest qui a mis en place, qui a soutenu toute cette production, en faisant venir quand même, en récupérant comme des cinéastes qui sont venus de Chine, quand même,
oui.
à 47-48.
Oui.
Bon, Hu Shaoxian et quand même Edouard Yang, ils sont nés en Chine, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Mais bon, ils sont partis, et ils ont, moi, eu raison de partir, parce qu'ils ont pu s'exprimer plus librement que s'ils étaient restés en Chine. Ça fait aucun doute là-dessus.
D'accord.
Même si maintenant, bon, en Chine, on peut s'exprimer plutôt assez librement.
Oui.
Mais il y a longtemps une époque où c'était très contrôlé, le cinéma, et à Taïwan, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Bon, même si les films ne rapportaient pas beaucoup, beaucoup d'argent, au moins, ils pouvaient s'exprimer comme ils le souhaitaient.
D'accord.
Donc, et ça, c'est quand même important.
Bien sûr. C'est liberté nécessaire.
Oui, à la création. Pour moi, il n'y a pas de création sans liberté.
Bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire que le cinéma taïwanais a trouvé une vitesse de croisière, une indépendance, justement.
Il existe toujours. Bon,
une autonomie suffisante.
Moi, je le surveille.
Financière,
bon, oui,
on va dire aussi.
Autonomie financière, pas trop quand même,
ouais.
parce que je veux dire, il faudrait quand même qu'ils prennent des mesures, je sais pas. Bon, là, récemment, il y a eu un film qui a eu un gros succès. Bon, alors, qui dit succès, ça veut dire, peut-être, ça peut inciter, quand même, mais je le souhaite, bon, que le producteur qui a produit ce film, bon, s'il a gagné beaucoup d'argent, il peut continuer à peut-être produire et puis aussi prendre un peu plus de risques avec des gens de talent.
Oui.
Voilà, d'une jeune génération un peu montante, parce que il y a quand même pas mal de cinéastes à Taïwan. Hein. Alors, la politique qui était mise un peu en place, ce qui était celle, bon, on va pas mal aider pour qu'on ait à l'arrivée beaucoup de films. Moi, je pense que c'était pas trop, c'était pas une très bonne idée. Il faut mieux aider peu et avoir des bons films, peut-être plutôt qu'aider beaucoup et avoir des films très moyens. Bon, ça c'est ma position, mais et puis souvent, bah, c'est pas parce qu'on va produire 100 films, comme ils voulaient atteindre la barre des 100 films, court-métrage inclus, hein, faut pas l'oublier, mais si c'est pour avoir 80 films sans grand intérêt, je crois qu'il faut mieux aider vraiment des...
Quelques cinéastes qui ont
mettre
déjà
un
talent reconnu.
Un système d'avance sur recette comme en France,
oui.
j'en sais pas, ou mettre une taxe, bon, peut-être que ce sera difficile, une taxe supplémentaire additionnelle qui alimente les fonds de soutien en France pour justement permettre à des jeunes cinéastes de réaliser des films. Bon, tout ça, il y a toute une politique à mettre en place, mais bon... Tant que le cinéma dépendra du GIO et pas du ministère de la Culture, c'est vrai que, bon...
Ça change un peu la donne.
Ça change la donne.
Alain Jalado, avant de parler du festival de cette année, quelle a été votre plus belle émotion dans les films taïwanais, ou le cinéaste, ou le film qui vous a plu, ou la scène, ou comme ça en mémoire? Je sais que c'est la question un peu bateau, mais c'est pour aussi donner une image sonore qui passe par le langage de ce cinéma-là.
Non, je comprends votre position. Moi, j'ai eu de grandes mobilisations en voyant Yiyi. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi en voyant beaucoup de films de Chao Chien. Bon, même un film comme Une belle journée d'été d'Edouard Yang, il y a des choses formidables, formidables. Alors, ou Tsai Ming-liang, c'est pareil. Son premier film, Les rebelles du Néon, était quelque chose de très, très bien. Et Vive l'amour, ou tout ça, c'est des films qui sont pour moi assez exceptionnels. Et quand je dis exceptionnel, c'est où il y a vraiment un cinéaste derrière, si vous voulez, quelqu'un qui utilise le langage cinématographique pour faire passer ses idées. Certains pensent qu'ils peuvent le faire, mais il ferait mieux d'écrire et s'arrêter là. D'autres, ils ont vraiment un vrai talent pour exprimer par les images, parce que le cinéma, c'est quand même les images. Et bon, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a quand même au moins une dizaine de cinéastes, je dirais, à Taïwan, qui savent utiliser plutôt une manière réussie le langage cinématographique.
Vous êtes donc très optimiste sur la génération qui pointe en ce moment dans le cinéma taïwanais
et... depuis maintenant pas loin de 30 ans. Bon, c'est vrai qu'on a eu de très bonnes réussites. Bon, alors certains maintenant sont partis en Chine, bon, en espérant s'investir plus en production. C'est vrai que ça bouge beaucoup en Chine maintenant, mais beaucoup, beaucoup. Hein. Oui. Et puis surtout, beaucoup de cinéastes ou des jeunes comme ça qui sortent de l'école Beijing Film Academy.
Beijing Film Academy,
où il y a 3000 étudiants. Et cette année, il y avait 18 000 étudiants qui se présentaient. Bon, il n'y a pas d'équivalence à Taïwan d'une école. Comme moi, je suis assez peu... Il y a quand même deux grands centres où les étudiants peuvent se former, peuvent apprendre le cinéma, parce que c'est quand même un langage, ça s'apprend. On n'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Bon, il n'y a pas d'équivalence, je dirais. Un petit peu d'enseignement dans l'université, mais c'est très, très...
C'est mineur.
C'est très mineur. Et bon, ça serait bien que Taïwan, qu'à Taipei, il y a une école de cinéma, qui est une vraie école, qui soit avec des bons professeurs, puisqu'il y a des cinéastes qui pourraient aussi, certains cinéastes pourraient intervenir pour vraiment faire une éducation à l'image, si vous voulez.
Oui.
Et je crois que c'est indispensable.
Alors justement, dans votre festival, le festival des trois continents, vous êtes sensible depuis un bon moment déjà à cet aspect, à cette volonté de former aussi, faire du cinéma, montrer des films, c'est une chose. Et puis vous avez aussi cette, vous en parliez là en évoquant le cinéma taïwanais, on sent qu'il y a derrière cette volonté de faire du cinéma, de le faire, de le montrer, mais d'en faire et effectivement d'éduquer à l'image. Alors cette année, pour le festival qui se déroule du 25 novembre au 2 décembre à Nantes, vous avez, disons que vous avez braqué le projecteur sur l'Amérique latine et en particulier sur l'Équateur. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Bah, si vous voulez, nous, on repère comme ça un peu des pays où ça bouge un petit peu. Alors, ce sont plutôt des focus, fait, parce que c'est pas la cinématographie en Équateur, elle est un peu...
C'est un cinéma naissant, d'après ce que j'ai compris.
Un peu naissant, un peu balbutiant. Bon, il y a quelques cinéastes, bon, ça prend forme. Bon, il y a quelques films qui deviennent intéressants, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc, nous, on observe, si vous voulez, on est quand même... on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, quels sont les pays où ça bouge un peu, parce qu'il y en a d'autres où ça bouge plus du tout. Bon, d'autres repartent. Bon, les Philippines, ça bouge beaucoup, par exemple. Ça bouge beaucoup grâce à la vidéo. Tout ça, c'est la vidéo a changé beaucoup les donnes dans certains pays, parce que ça coûte pas très cher de faire des films. Comme il y a plein de cinéastes, plein de jeunes qui veulent s'exprimer par le cinéma, donc automatiquement, bon, alors ils partent avec une caméra, ils écrivent un petit scénario, et puis lorsqu'il y a une production assez importante, on peut trouver des choses très 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 bien, très intéressantes à travers cette production. Et donc les Philippines, il y a eu des grands moments, il y a eu des grands cinéastes aux Philippines. Après, ça s'est tombé parce que les jeunes ne trouvaient pas d'argent auprès des producteurs, ne voulaient plus produire des films un peu à risque, je dirais, parce que le marché est quand même... un film, ça coûte un peu d'argent. Donc si certains producteurs, ils sont d'accord pour des fois perdre sur un film, mais après, pas sur deux, pas sur trois. Et donc, la vidéo a permet, dans certains pays maintenant, comme en Chine, entre parenthèses, ça permet de complètement de doper, doper la production et la rendre assez diversifiée. Et beaucoup de jeunes s'expriment maintenant à travers ce moyen d'expression, si vous voulez. Alors, des fois, ils tournent en haute définition quand ils ont un peu plus d'argent, des fois en mini-DV même. Même en mini-DV, on a des choses formidables.
La particularité du Festival des Trois Continents, c'est aussi de sélectionner des films et de récompenser des films, qu'ils soient, on va dire, des films de fiction, des documentaires et aussi des courts-métrages. On n'a pas parlé tout à l'heure du court-métrage dans le cinéma taïwanais. Est-ce que c'est une écriture auquel se sont confrontés les cinéastes que vous avez évoqués
le court-métrage, c'est la première fois qu'on ouvre un peu. Parce que le court-métrage, il y a tellement de... Ouais. D'abord, il y a le festival de court-métrage en France qui s'appelle le festival de Clermont-Ferrand qui font un très très bon travail. Ouais. Bon, c'est énorme, il y a une production gigantesque. Bon, cette année, on était un peu interpellés pour comme ça montrer dans quelques pays, surtout l'Afrique, parce que je pense que si le cinéma en Afrique peut redémarrer, c'est un peu grâce au court-métrage, parce que ça ne coûte pas trop cher, et si on repère des gens bien, on pourra après, il y aura un certain accompagnement qui peut se faire. Mmh. Donc le court-métrage, c'est un peu une école. Beaucoup de cinéastes sont passés par le court-métrage, notamment en France. Au niveau de la Nouvelle Vague, avant de faire À bout de souffle, Jean-Luc Godard, il faisait des courts-métrages, ou des moyens-métrages. Bon, Alain René, cinéaste quand même, c'est connu, il avait beaucoup de courts-métrages avant de passer à la fiction long-métrage. Et c'est une bonne école, le court-métrage. Donc c'est là où on peut détecter
des talents,
on peut détecter, parce que sur 5 minutes, on peut voir tout de suite si quelqu'un, il a du talent ou pas. Hein, et s'il sait maîtriser son sujet, est capable, sur un sujet de 3 minutes, on peut faire des choses très réussies. Hein. Donc pour moi, c'est pas limitatif, au contraire, ça permet à certains, peut-être, de devenir après des cinéastes reconnus et qui pourront faire des longs-métrages de fiction, qui est quand même, qui est comme l'aboutissement, parce que le court-métrage, ça reste un passage, je dirais.
D'accord. Quels sont les à côté du Festival des Trois Continents cette année? Il y a des expositions, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses d'organisées aussi pour le jeune public, il y a des rencontres.
C'est ce qui est indispensable, parce que nous, depuis le début, on fait beaucoup
une éducation. La saveur de votre festival.
Faut pas se limiter à montrer comme ça un film ou une compétition qui est importante, parce que surtout en Asie, quelqu'un, un cinéaste qui reçoit un grand prix ou un deuxième prix ou un prix d'interprétation, c'est vrai que c'est important parce que la presse reprend ça ensuite, et donc ça positionne quand même un peu le cinéma. Mais parallèlement à ça, à cette compétition qui est indispensable de mettre en place, on a des ateliers, quelque chose qu'on a mis en place avec 5-6 ans maintenant, qui s'appelle Produire au Sud, c'est-à-dire des formations de producteurs, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains pays, il n'y avait pas de producteurs, alors que c'est un vrai métier d'être producteur. Un producteur, ça doit savoir, c'est un alter ego, et un réalisateur, il a besoin un peu quand même quelqu'un autour de lui qui lui dit, ce casting que tu nous proposes, c'est pas parce que ce garçon ou cette jeune fille est très amie avec toi que ça va suffire. Mmh. Donc un producteur peut dire, non, là le casting, il n'est pas bon, on travaille. Ton scénario, il faut le réécrire. Il n'est pas abouti, il faut travailler.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un métier qui s'apprend.
Savoir détecter dans un film les qualités nécessaires pour qu'à l'arrivée, on ait quelque chose de bien. Mmh. Il y a une chaîne dans la fabrication d'un film. Hein. Mmh. C'est-à-dire, ça commence à l'écriture du scénario.
Il y a des écoles pour ces profils de producteurs là, dont vous parlez, ou c'est l'expérience, c'est des rencontres qui font qu'on est un bon producteur.
En Europe, on a beaucoup d'écoles. Hein. Je pense à la FIMIS ou à Paris. Je pense à Londres, il y a une très bonne école. Il y en a partout, les écoles. Hein. Oui. Malheureusement, il n'y en a pas à Taïwan. Il y en a en Inde, il y en a plusieurs en Inde, il y en a même trois, vous voyez. Oui. Les pays où il y a une grosse production scénographique, il y a quand même des écoles de cinéma. Oui. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça me paraît indispensable. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je pense que tout élève, tout étudiant, ou jeune aspirant à vouloir faire des films, a besoin un peu de connaître des clés. C'est comme si quelqu'un... je pense que les conservatoires de musique, c'est nécessaire. C'est quand même... Beaucoup de musiciens sont passés par les conservatoires de musique.
Bien sûr.
Ça s'apprend.
Il n'y a pas de mystère. Bon, vous fêtez là les 30 ans du festival cette année, en 2008. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mini-événement, on va dire.
Bah, si vous voulez, nous, on repasse tous les films qui ont eu les grands prix depuis 79, déjà.
Ouais.
Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont venir.
Ouais,
bon, une autre perspective, Edouard Young, parce que, bon,
voilà,
moi, j'avais une grande proximité avec Edouard, c'était un ami très proche, et bon, s'il y avait un festival qui pouvait faire une rétrospective, c'est bien nous, en priorité, mm-hmm. Par rapport à... Madame Edouard Young va venir à Nantes, tout ça, elle vit à Los Angeles maintenant, bon, et beaucoup d'autres gens. Parallèlement à ça, bon, on a donc ce focus sur l'Équateur, on a des films de la compétition quand même, on a ce qu'on appelle l'heure du genre aussi, c'est-à-dire des films, bon, on a des films japonais, des films de genre, vous voyez,
oui.
des thrillers, des films d'action, un grand spectacle,
mm-hmm.
mais réussi, parce que, parce qu'on a tout là-dedans.
Oui. Il y a des comédies ?
Là, dans notre programme,
oui,
mais pas assez. Mais on vit une époque, les comédies ne sont pas... En Asie, principalement, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire. Alors qu'il y a une époque, bon, il n'y en avait pas beaucoup. Le cinéma de Hong Kong, par exemple, où la Cathay était importante, et à Hong Kong, et après à Singapour, ils faisaient beaucoup de comédies qui étaient très drôles. Maintenant, ça a disparu. C'est un genre qui a disparu, et c'est un peu dommage. Moi, je regrette beaucoup.
On peut l'expliquer ?
Non.
Non,
bon, c'est peut-être qu'il n'y a plus de gens à écrire des scénarios comme ça, très enlevés, très drôles. Peut-être que les acteurs manquent un peu. Ce sont des regrets.
Donc, beaucoup d'événements prévus pour les 30 ans de ce festival. Alain Jalado, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du Festival des Trois Continents, cinéma d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui se déroule à Nantes du 25 novembre au 2 décembre 2008. Et puis, je vous remercie de nous avoir parlé de ce cinéma taïwanais, qu'on connaît maintenant quand même un peu en France et en Europe, grâce aussi probablement justement au Festival des Trois Continents. Et merci encore de nous avoir accordé votre temps. À bientôt, au revoir.
Thank you.